nous allons démarrer cette table ronde qui a pour thème des dragons, encore des dragons, toujours des dragons. Donc vous avez bien compris qu'on va parler de dragons. Alors, pour traiter ce thème hautement intéressant, nous avons Naomi Novik, qui a donc une série, la série des livres téméraires. On reviendra dessus tout à l'heure, qui va être magnifiquement traduite par Lionel Davous, mon confrère. Marie-Charlotte Delmas, qui a fait un important travail de recherche sur tout ce qui est mythologie, superstition populaire, etc. Et un travail important avec notamment un ouvrage sur le légendaire des dragons. Et Pierre Pevel, qui à plusieurs reprises dans des séries d'ouvrages telles que la série des ouvrages de Bistat ou la série des Lames du Cardinal, donc a mis en scène des dragons dans ses histoires. Alors, première question, Marie-Charlotte. Nous allons repartir en fait aux origines. Et donc, le dragon est un animal mythique qui a occupé le légendaire humain depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que ce fameux dragon et quelle est son importance justement dans la tradition populaire?
Bon, d'abord, le dragon, c'est un animal, c'est un nom sous lequel on met différents types d'animaux. Voilà. Les premiers dragons de l'histoire sont des dragons assyro-babyloniens, des premiers mythes assyro-babyloniens, en particulier celui de Tiamat, la terre-mère, qui est accompagnée dans son combat par des dragons. Voilà. Quand on voit les dragons de Babylone, ceux qui encadrent la porte d'Ishtar, par exemple, à Babylone, et qui sont actuellement au Louvre, les fresques de dragons, on voit quoi? On voit des espèces de grands chiens avec des grandes pattes, quatre pattes qui ne ressemblent absolument pas à l'idée qu'on peut se faire du dragon, qui va être une idée construite. Ensuite, on va sauter au-dessus des Perses pour arriver chez les Grecs, et donc sur ce mot « dracon » qui va donner notre dragon. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est un serpent. Et que ce mot « dracon », en fait, veut dire « regard fixe ». Voilà, parce que les serpents ont un regard fixe. Et on retrouvera, alors là, je vais faire un grand pas vers nos, pour ne pas être trop longue, vers nos naturalistes de la Renaissance. Ambroise Paré, par exemple, quand il met... quand il consacre un chapitre au dragon dans son livre, dit un coup serpent, un coup dragon. C'est-à-dire que ce sont absolument, c'est absolument la même chose. Et dernier élément, il faut bien se dire qu'à l'époque, le dragon, ou ce qu'on appelait dragon, ou ce qu'on imaginait dragon à partir d'ossements découverts, probablement d'ossements de dinosaures, voire même 5 millions avant d'ossements de type permien, de monstres permiens qui ont largement précédé les dinosaures, n'a pas grand chose à voir avec cette image qui va se construire. On voyait des queues qui étaient des queues serpentiformes, c'est sûr. On a dû voir des ailes de pterodactyles, c'est sûr. Et on a construit ce dragon auquel on a cru très longtemps parce que l'éléphant était aussi impressionnant à l'époque que le dragon, tout simplement. Voilà, je vais pas faire. Vas-y.
Et en quoi les dragons actuels de la fantasy, donc tels qu'ils sont décrits, sont différents de ces dragons populaires issus des légendes?
C'est-à-dire que le dragon a peu à peu emprunté. Il a emprunté, par exemple, ses ailes à la chauve-souris, mais aussi aux démons. Hein, les ailes de cuir, ce sont les ailes démoniaques. Lucifer s'en est déchiré, etc. Ils ont emprunté leur gueule à un animal qui était monstrueux, qui était le crocodile. Voilà. C'est-à-dire qu'on a essayé de reconstituer des dragons. Alors en plus, dragon, ça ne voulait pas dire grand-chose parce qu'il y avait plein d'espèces de dragons. Il y a des dragons à pattes, à ailes, il y a des dragons à terre, sans pattes, il y en a à quatre pattes, il y en a à deux pattes. Et d'ailleurs, dans Pub, dans ce merveilleux ouvrage dans lequel je retrace l'histoire du dragon à 22,30 €, l'iconographie que j'ai choisie, sur laquelle j'ai travaillé, est uniquement une iconographie tirée des enluminures du Moyen-Âge, du 9e siècle jusqu'au livre des naturalistes de la Renaissance. Voilà. Et on s'aperçoit que dragons, basiliques, parce qu'il y a les gros dragons, mais il y a les petits dragons. Hein, et jusqu'au 19e siècle, on croit encore aux petits dragons, les basiliques par exemple, ou les vouivres, qui sont des formes dragonesques auxquelles on croyait dès le Moyen-Âge, enfin dès l'Antiquité, parce que l'Antiquité romaine, Pline déjà nous parle des basiliques, des dragons, etc. Voilà. Donc il y a tout un imaginaire qui se crée, pour terminer, autour de ce dragon. Ce dragon, on le reconstitue à partir d'éléments. Hérodote, d'ailleurs, au 5e siècle avant notre ère, raconte qu'il est allé en Arabie, qu'il a vu toute une série d'ossements de dragons. Voilà, on retrouve des ossements préhistoriques, hein, soit de l'ère des dinosaures, soit bien avant de l'ère permienne. Et on reconstruit, on essaie de reconstruire avec ça des bêtes étranges. Mais pas plus étrange que les grands boas, que les voilà. Et après va se constituer toute une mythologie autour de ça. Alors, non, pas du tout. Mais de toute façon, à partir du moment, enfin, quand on travaille, que ce soit en histoire ou en ethno-histoire, on reste dans un champ d'études cohérent. Donc, le champ de l'Occident, de ce que les Grecs appelleront la Mésopotamie jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'au collectage du 19e, on est dans un champ cohérent. Voilà, où la légende de génération en génération on est dans un champ cohérent. Les dragons de Chine sont tout à fait autre chose. D'abord, ils ont 8 pattes, il y en a qui en ont 12, etc. L'histoire du feu des dragons, elle est expliquée très diversement par les géographes de l'Antiquité ou les naturalistes, qui pensent par exemple que les dragons vivent à l'intérieur de la terre, donc ils portent en eux le feu de l'enfer, en fait, hein, puisque l'Etna est une entrée de l'enfer pour eux. Voilà, d'autres disent qu'il aurait à l'intérieur de lui une espèce de soufre, hein, et que ce soufre, quand il crache, parce qu'en fait ils ont une haleine qui tue. Donc cette haleine tuant, répandant la peste, etc., elle s'enflamme à l'air. Il y a tout un tas de... Mais de toute façon, dans la mesure où le dragon est présent dans le vieux fond indo-européen, il est un peu normal que ça soit parti, on le constate au niveau des contes, pardon, et des mythes, ça part dans les deux sens, hein, et on retrouve un petit peu les mêmes choses. Voilà.
Alors, Pierre Pevel, donc là on est sur des dragons plus moderne, plus en tout cas en moderne, accord, enfin moderne entre guillemets, les dragons de la fantaisie là. Donc à travers notamment la série des les Lames du Cardinal, pourquoi avoir mis en place donc ces créatures, ces dragons, dans cet univers un peu de cape et d'épée?
Sur les lames, au début j'étais assez réticent, j'avais pas envie d'introduire les dragons dans cet univers-là, pour la raison que j'avais déjà un peu traité le thème avec Wilstatt et puis aussi avec les enchantements dans le Robert et les dragons. Et puis finalement, je me suis fait une douce violence puisque j'aime vraiment faire ça. Et j'ai même décidé à faire strictement l'inverse, de renoncer aux dragons, c'est-à-dire de me consacrer en fait qu'à eux. Comme je voulais décrire un 17e siècle le plus rigoureux possible, le plus historiquement exact possible, je ne pouvais pas introduire trop d'éléments relevant de la fantaisie, du merveilleux, du magique. Parce que logiquement, si j'en avais mis beaucoup d'éléments imaginaires, ça aurait déséquilibré l'aspect historique. Donc il fallait que je limite avec un taux de fantaisie assez bas pour que l'univers réel, historique, reste crédible. Donc j'ai décidé de me consacrer uniquement aux dragons et d'imaginer que les seules créatures magiques qui seraient dans cet univers seraient les dragons et les cousins du dragon, vivernes, vivres, basiliques, tarasques, etc. Là, j'ai eu qu'à piocher dans la dans le folklore mondial pour retrouver toutes les créatures dont j'avais besoin, en tirant la corde un peu large, pensant que le salamandre aussi ferait affiner un dragon, etc. Les dragons ont cet avantage immense à mes yeux. D'une part, c'est juste super chouette un dragon. C'est une créature fabuleuse. Moi, ça m'excite l'imaginaire. L'avantage aussi du dragon, et c'est pour ça qu'on le retrouve à mon avis dans différentes séries, y compris chez les mêmes auteurs pour mon cas, c'est que c'est une créature qui est extrêmement polymorphe. On peut aussi bien l'imaginer comme une sorte un monstre titanesque qui est quasiment une force de la nature, au même titre que les tempêtes, la grêle ou un été très sec, et c'est le cas dans Lichtag, où le dragon est juste une force qui est là, ou alors on peut les imaginer comme des créatures extrêmement sages, car disposant d'un savoir ancien, dû à leur grand âge, et éventuellement elles peuvent être des créatures bénéfiques, ou alors tout simplement une autre race intelligente que la nôtre, et qui est capable de représenter toutes les diversités psychologiques. Il peut y en avoir des bons, des mauvais, des jaloux, des égoïstes, des courageux, etc. Donc vraiment, avec le dragon est à la fois extrêmement polymorphe, on peut l'utiliser à pratiquement toutes les sauces, et en même temps, il est emblématique de la fantasy. C'est-à-dire, si vous voulez faire comprendre à quelqu'un que vous vendez un livre ou une bande dessinée de fantasy, vous mettez un dragon sur la couverture. Pareil pour un film, si vous voulez vraiment évoquer l'univers fantasy, il faut mettre, pareil pour un film, il faut mettre ça sur l'affiche. C'est la créature emblématique de la fantasy.
Alors, on reviendra justement sur ce rôle du dragon dans la fantasy. Mais auparavant, je voulais interpeller Naomi Novik sur cette idée. Alors là aussi, on est dans une espèce un peu du chronique. Cette idée curieuse d'aller mettre des dragons dans les guerres napoléoniennes. Alors justement, expliquez-nous quel rôle jouent ces dragons dans le monde que vous avez flanqué.
So what I wanted to do was have the dragons be an air force. Mm-hmm. Essentially, in the Napoleonic Wars, there wasn't an actual air force. And what I've tried to do with the dragons was have them work as an air force, the same way that have them the tactics that were used in infantry combat, in naval combat, and extrapolate from there what kind of aerial combat we would see with dragons.
Ce que je voulais avant toute chose, c'était que les dragons soient une air force, une force militaire aérienne, ce qu'il n'y avait évidemment pas à l'ère napoléonienne. Et donc c'est ce que j'essaie de faire, c'est de considérer les dragons qui pouvaient être une force militaire à une armée de l'air. Et imaginer les tactiques que l'on a dans l'infanterie, dans la marine, donc que l'on connaît, et puis essayer de les extrapoler justement à ces dragons que l'on considérait donc comme une force de frappe aérienne.
So my dragons have crews. They're not ridden by a single individual. They operate. I try to have them operate within sort of believable physical limits, and have them. You know, they can only fly a really realistic number of miles per hour. They are bound by, they can be shot, they can be wounded. And that's just a fun area to play with. So the Napoleonic Wars, because it's a time where there wasn't a real air force, serves very well as a time period to introduce them.
Donc, ces dragons ont des équipages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cavalier simple, un seul cavalier à leur dos. Également, je voulais qu'ils fonctionnent et que leur vie et leur mode de fonctionnement se placent selon des limites physiques qui soient réalistes et crédibles. Par exemple, ils ne peuvent pas voler à n'importe quelle vitesse, ils ont une vitesse de pointe, ils ont une vitesse d'endurance, une vitesse de croisière qu'ils peuvent soutenir pendant un certain nombre d'heures, on peut leur tirer dessus, ils peuvent être blessés, etc. Donc simplement, au début, c'était juste un domaine amusant avec lequel jouer, et vu qu'effectivement, il n'y avait pas d'armée aéroportée à l'époque des guerres napoléoniennes, je me suis dit que ça convenait bien comme période temporelle pour introduire ce genre d'idée, puisqu'il n'y avait pas ce genre d'élément à l'époque.
Et donc ces dragons sont conduits par des aviateurs. quel est le rôle particulier de ces aviateurs? Parce qu'en fait, c'est eux qui vont élever ces dragons, qui vont s'en occuper plus particulièrement. Il y a une relation particulière qui s'établit entre eux.
The aviators, there's different relationships between people and dragons in all the different nations in various different parts of the world.
Concernant les aviateurs, en fait, les relations entre les gens et les dragons sont extrêmement diverses en fonction des nations et des parties du monde.
And in the first book, in the opening, we're primarily in Britain and in Western Europe, where aviators are divided very much as classes were in the time on ships, for instance, where there were officers and hands. With dragons, there are the officers are responsible for the combat, and there's a ground crew, their hands on board the ship, who were lower class people who were responsible for caring for the dragons in a sort of more physical way, caring for the dragon's harness, for the equipment.
Par exemple, dans l'ouverture, dans le premier livre, on est quand même principalement dans un décor qui se situe en Grande-Bretagne et en Europe de l'Ouest. Et donc les aviateurs, là, sont plus ou moins organisés un peu comme à la façon de la marine à bord des navires. Donc il y a en gros deux différentes classes, il y a les officiers et il y a l'équipage. Les officiers sont responsables de la direction du combat dans l'action. Et l'équipage, par exemple, ils ont notamment un équipage de sol, qui se plutôt la caste inférieure dans l'armée, de la même façon qu'à bord d'un navire, et qui s'occupe plutôt de soigner le dragon, de s'occuper de ses besoins physiques, de s'occuper de son harnais, son équipement, etc.
But the ultimate person sort of in charge of each dragon is a captain. And so my hero, Lawrence, is the captain of a dragon, and it's the... In this society in Western Europe, that bond, the bond between the captain who sort of harnesses the dragon at the first hatching, is relied upon, not always safely, to keep the dragon in line and control emotionally.
Mais dans tout ça, il y a une personne en particulier qui est le capitaine. Dans mon cas, Will Lawrence, c'est le capitaine qui s'occupe véritablement du dragon. Et dans cette société, il y a un lien très fort entre le capitaine et le dragon, puisque c'est le capitaine qui est responsable de passer le harnais au dragon quand il est clos et qu'il voit le jour pour la première fois. Qu'il voit le jour. Et dans cette société, on fait confiance, on compte sur le capitaine, peut-être plus ou moins à bon escient, pour s'assurer que le dragon ne franchisse pas les limites de la société et reste dans le rang.
D'accord. Pierre, quel est le rapport entre les hommes et les dragons
dans tes romans,
et notamment dans la dernière série?
En fait, selon les romans, ça dépend vraiment beaucoup. Dans les enchantements d'Ambremer, les dragons sont une race plutôt bénéfique, ils sont l'ego des humains, ni des adversaires, ni des menaces particulières. On sait simplement qu'il vaut mieux pas les fâcher, parce qu'ils peuvent quitter l'apparence presque humaine qu'ils peuvent prendre dans les enchantements d'Ambremer pour devenir les créatures d'écailles et de quelques tonnes que l'on sait, donc forcément ils génèrent le respect. Dans les lames du cardinal, le rôle est beaucoup plus ambigu, puisque ce que j'ai imaginé fondamentalement, c'est que les dragons ont existé sur Terre jadis, que la race aurait dû s'éteindre, qu'elle ne s'est pas éteinte totalement, que certains ont pris apparence humaine pour vivre cachés parmi les hommes, et eux, en quelque sorte, les dragons dans l'univers des lames du cardinal sont une aberration de la nature, et ils provoquent des déséquilibres naturel, en particulier en engendrant une maladie qui s'appelle la rance, qui est une maladie dégénérative terrible pour les hommes. Donc les dragons, rien que par leur seule présence qui est anormale, sont une menace. Et en plus, dans le lot, il y en a certains qui considèrent que les dragons devraient régner sur la Terre plutôt que les hommes, et qui œuvrent dans ce sens. L'idée étant qu'il y a deux races, les dragons, les humains, et il y a un seul écosystème qui est la planète. Donc selon mes deux séries principales, en effet, les positions, les rôles donnés aux dragons varient. Dans Willstatt, il y a un dragon qui est juste une force de la nature, dont on ne s'explique pas le comportement, qui protège une ville sans qu'on sache vraiment pourquoi, mais qui là, lui, devient presque en quelque sorte, presque l'incarnation d'une force de la nature naturelle, qui pourrait être la graine, le vent, j'en reviens là à l'aspect extraordinairement polymorphe de cette créature qu'on peut vraiment adapter à un volo selon les univers. Et j'ai pas fini, parce que dans ma prochaine série, j'ai encore des dragons qui viennent d'une autre nature. Donc vraiment, c'est la créature qui m'inspire le plus.
Alors, en parlant de cette créature qui justement inspire les auteurs, en ce moment, on voit qu'on a de nombreux dragons un peu partout, dans les films, dans des BD, dans de nombreux romans de fantasy, et les gens, visiblement, aiment beaucoup les dragons. Marc-Charlotte, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement actuel pour les gens, pour les dragons? Est-ce que c'est en lien avec une résurgence de certains mythes ou des besoins de revenir à des choses plus traditionnelles, ou est-ce qu'on peut trouver une explication à ça?
Pardon. C'est sûrement pas moi qui vais vous donner l'explication, parce que je pense qu'il y en a il y en a peut-être plusieurs en fonction des différentes personnes. Ce que je pense par contre, moi, c'est que le dragon reste effectivement un animal sauvage fabuleux. Le seul qui finalement est résisté, on n'en a pas beaucoup des animaux sauvages fabuleux. L'éléphant qui était, je vous disais, cet animal fabuleux, maintenant nos enfants les regardent dans des zoos, les lions, tous les grands fauves, etc. Voilà, on sait qu'ils existent. Je trouve l'autre chose, c'est que je pense que la même fascination se produit sur, chez les enfants, en tout cas sur les dinosaures. Voilà. Donc cette forme d'animal, comme disait Pierre, cet animal tellurique, cet animal qui représente quand même une force de la nature, cet animal qui est à la fois un animal de l'eau, de l'air, de la terre, du sous-sol et du feu, donc qui porte en lui la totalité des éléments, doit fonctionner sur certains d'entre nous de façon forte symboliquement. Ensuite, je laisserai aux psychanalystes ou aux psychosociologues, parce que ce n'est pas mon domaine de recherche, le soin d'avoir à donner un avis. Là, celui que je viens de vous livrer n'engage que moi.
Pour poursuivre cette question, j'ai envie de demander à nos deux invités écrivains si, justement, comme il y a cette mode des dragons, est-ce que l'utilisation du dragon, c'est pas aussi un peu une façon de se dire, ben, je mets des dragons parce que ça va plaire?
J'utilise des dragons simplement parce que ça me plaît à moi.
But I think they appeal to me for the same reasons. You know, I think what Marie-Charlotte was saying about the dragons as a symbol of power, as a symbol of sort of freedom, of being able to escape the bounds of the ordinary. And I think that is very much, I remember as a child going to the museum and seeing, you know, the Tyrannosaurus Rex with its jaws and feeling, you know, you're sort of awed by it. And I do think we like that sense of awe, and that sort of the imagination of having a dragon, of having some of that power for ourselves.
Mais je pense qu'ils me plaisent à moi, les dragons, pour les mêmes raisons que Marie-Charlotte, vous venez d'évoquer. C'est un symbole de pouvoir, de puissance, de liberté. Ça permet de rompre les liens avec l'ordinaire. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant et que j'allais dans les musées et que je voyais les immenses squelettes de tyrannosaures avec ses immenses mâchoires, j'avais une espèce d'admiration mêlée de respect. Et je pense que c'est un sentiment qu'on aime beaucoup, ressentir cette chose-là, et que les dragons suscitent la même chose, et que quelque part, quand on a cette espèce de sensation face à ces bêtes-là, on a envie d'avoir une fraction de ce pouvoir pour soi, une fraction du pouvoir des dragons.
Oui, moi aussi, comme Naomi, si je mets des dragons, c'est d'abord parce qu'ils plaisent à moi. Si je devais être cynique et mettre des créatures pour que ça marche, je mettrais des vampires.
Alors moi, j'aime pas les dragons. ça ne me fascine pas du tout.
Alors,
je ne sais pas pourquoi, ça ne me fascine pas du tout. Et je me suis livrée à cette étude un petit peu en me disant, alors franchement, là, il y en a marre des dragons. Allez, je vais leur montrer que les dragons, enfin, on les a pas attendus pour des histoires de dragons. Il y en a partout, elles sont formidables. Le christianisme s'est servi très largement des dragons. Les premiers pères de l'Église ont mis les saints face à des dragons, comme les héros grecs étaient face à des dragons. Voilà. Donc, ce qui m'a intéressé, c'était plus le pourquoi. C'est quoi un dragon? Quand est-ce qu'on y a cru? Voilà, mais c'était plus un pourquoi tout le monde parle des dragons alors que moi ça me fascine pas. Je vais essayer d'aller fouiller dans leur histoire, à la fois du point de vue mythique, à la fois du point de vue, parce que c'est quand même mon domaine de recherche, à la fois du point de vue de la naturologie, je sais pas si on dit comme ça. Voilà, pour aller puiser et trouver comment s'était constitué ce mythe du dragon. Mais ça me... Et pourtant, alors je suis moi aussi, j'ai mes souvenirs de petite fille et de dimanche passé au Muséum d'Histoire Naturelle, devant, à Toulouse, devant ce grand... je ne sais pas ce que c'était, peut-être un brontosaure, un dinosaure, je ne sais pas. Et je trouvais ça fascinant. Mais le dragon...
Je connais trop.
Alors, je suppose qu'effectivement, en tant qu'auteur, lorsque vous avez imaginé vos créatures dragonesques, vous avez forcément un peu puisé dans l'image qu'on se fait du dragon, mais vous avez aussi sans doute ajouté votre touche personnelle avec des petites spécificités que vous auriez pu... donner à vos dragons. Donc, en quoi est-ce que vos dragons sont originaux par rapport à l'image que l'on se fait du dragon?
Moi, je ne suis pas sûr qu'il le soit. Je crois que je suis assez traditionnaliste. En même temps, il y a tellement de dragons différents. Soit il n'y en a aucun qui est conforme à l'idée qu'on peut s'en faire, soit ils le sont tous. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Moi j'ai mis des dragonnets, j'aime bien les dragonnets, je trouve ça joli. Je trouve ça mignon, imaginer des petits dragons comme ça, qu'on peut avoir comme animaux domestiques. Mais à part ça, non.
Les mixtes.
Il y a des sang-mêlés, des gens qui ont du sang-dragon.
Ça c'est original.
Ouais, peut-être. Encore, je ne suis pas sûr.
Oh, bah si. Ça, je t'assure, j'en ai pas trouvé.
En fait, le dragon, il suffit à lui. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en rajouter beaucoup. Il est tellement chouette tout seul que s'il faudrait prendre le risque de le gâcher, en fait, je ne m'y risquerai pas.
I would say for my dragons, the pieces that I've chosen out of the dragon legend, because that's in a way where the originality comes. It's sort of what pieces you pick and what combinations. Because it's true, you can find examples of almost any quality in other dragons.
Moi, je pense, pour parler de mes dragons, en fait, je pense qu'il serait plus juste de parler des morceaux que j'ai pris dans le pool commun, la réserve commune des symboles relatifs aux légendes portant sur les dragons. Et je pense que c'est là que se trouve l'originalité, c'est ce que vous allez choisir pour faire votre propre dragon. Et c'est là que vont se trouver peut-être leur qualité spécifique.
So, in my dragons, I try to make them individuals, individual people with different emotions, different goals from one another, so that dragons as a whole cannot be generalized. And also, they're arranged in different breeds, for which I took a lot of inspiration from, for instance, breeds of butterflies, breeds of birds, just species of birds.
Pour mes dragons, je pense que j'ai consacré beaucoup d'efforts à faire en sorte que ce soit des individus différents et distincts, avec des émotions différentes, des objectifs différents, etc., de façon à ce qu'on ne puisse pas généraliser et faire un grand paquet en disant les dragons. Également, il y a des espèces différentes, je me suis beaucoup inspiré des différentes espèces de papillons et d'oiseaux.
And then the relationships between dragons and people differing from different cultures makes the dragons themselves more distinct from one another. And having them have a sort of fraught, sometimes tense relationship with people and across cultural boundaries with one another. And then I have the full range of sizes within, but I feel that that's sort of less interesting, that it's more the dragons being individual personalities and working and the differences in their relationships with humans within different societies.
Il y a aussi la question de la relation entre les dragons et les humains, puisque, comme je disais, la façon dont les dragons sont traités, dont ils se comportent, est différente d'une culture humaine à l'autre, et ce qui forcément contribue à renforcer les différences entre les différents dragons. Donc il peut y avoir parfois des relations un peu tendues avec les gens, et notamment les dragons peuvent se regarder en chien de faïence d'une frontière culturelle à l'autre. Bon, effectivement aussi ils ont des tailles différentes, mais je pense que c'est un peu moins intéressant. Moi, vraiment ce qui comptait pour moi, c'était d'en faire des individus avec des personnalités bien différentes et bien tranchées, et justement de parler des différentes relations qu'ils peuvent avoir avec les humains et avec les différentes sociétés où ils se trouvent.
Dans le mythe, ils n'ont jamais eu de relations
avec les humains. Alors justement, dans la mythologie,
Oui, dans le mythe, le mythe du dragon, dans les différentes légendes autour du dragon, enfin, autour de dragons, qui mêlent des dragons, il n'y a jamais de relation à l'humain. La seule relation qui existe, c'est soit la mort du dragon, qui est un protecteur de trésors et un protecteur souterrain, de trésors souterrains, qui est une victime de la création d'une ville qui représente quand même l'aspect sauvage. L'apprivoisement, mais un apprivoisement dont on ne sait pas ce que va devenir le dragon après. C'est-à-dire qu'on le rend, on le dédragonise, on le rend inoffensif en lui mettant une étole dessus ou une croix, et on le renvoie à l'abîme quelque part sans que... Voilà. Mais il n'y a aucune légende où le dragon est en relation avec l'humain. Et j'ai trouvé très intéressant là, ce que vous disiez sur la spécialisation du dragon, parce que c'est une constante sur tout ce qui touche aux êtres surnaturels en général, aux animaux fabuleux. C'est-à-dire qu'on a des noms au départ du mythe qui sont des noms génériques. Et au fur et à mesure que la tradition évolue, et au fur et à mesure que ces animaux ou que ces êtres surnaturels s'hybrident, ils se spécialisent en même temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des dragons. Dans le dragon, il y a tout, il y a des serpents aquatiques. Et puis petit à petit, on voit, pas seulement avec la science, mais on voit avec les légendes, il y a des... Au fur et à mesure, à part 16e, 17e, on y croit au dragon. Hein, les naturalistes en achètent, ils en ont dans leur cabinet de curiosité. On leur fabrique des faux dragons avec des raies, des poissons, des raies. Et on fabrique des espèces de dragons et on leur vend ça, et ça coûte des fortunes, et ils sont très fiers de les exhiber. Petit à petit, les choses vont se spécialiser, avoir des particularismes. Or, dans le mythe, ces particularismes, au départ, n'existent pas. Et c'est valable pour tout ce qui touche au mythe et au surnaturel. On part de quelque chose qui est symbolique et très large pour aboutir à de l'hybride et du coup du spécifique. C'est valable pour les êtres de la nature, les lutins, les machins, où au départ, il n'y a pas tout ça. Mais petit à petit, plus on avance, plus on spécifie, plus on hybride.
Et dans la mythologie, donc ce dragon, c'est plutôt une créature bénéfique ou maléfique?
Alors, c'est le plus souvent, pendant que je réponds, je réfléchis, je repasse en revue les légendes, c'est le plus souvent une créature... Alors, bénéfique, maléfique, je ne pense pas que ce soit des termes qui puissent appartenir au mythe. C'est une créature dangereuse. Voilà. Dangereuse, parce que elle protège des terres incultes ou des trésors enfouis, parce qu'elle est créature marine, voilà, donc elle est y a assez peu de différence entre les dieux et les démons, en fait. Et donc, on n'est pas en termes de bon, mauvais, on est en termes de danger. Des dieux peuvent être aussi dangereux que des démons. Donc, c'est un animal dangereux dans les mythologies. Mais qui peut évidemment être au service des dieux, auquel cas il est dangereux, mais pas pour les mêmes. Tiamat, dont je parlais tout à l'heure, la terre, chez les Assyro-Babyloniens, et donc on aura d'ailleurs le mythe de Gilgamesh avec Brigitte Lyon, là, aujourd'hui, ou je ne sais plus quoi c'est. Eh bien, la terre-mère, elle va se battre contre les dieux et les jeunes dieux, et elle emporte avec elle différents monstres et les dragons. Voilà.
Alors, Naomi Novik, les dragons de votre monde sont apparemment domestiqués plus ou moins par les hommes. Ils ont accepté de les servir. Il reste très peu de dragons sauvages. Est-ce que ces dragons-là sont plutôt bons, mauvais, dangereux? Comment ils réagissent à l'homme? Et est-ce que si on les laisse faire, ils vont redevenir sauvages?
If left to their own devices, would they revert to wild states?
So there are also dragons in my. There are cultures in my books where it's a bit the other way around, where the dragons have tamed people.
Il y a certaines cultures dans l'univers où c'est plutôt l'inverse. Ce sont les dragons qui ont apprivoisé les gens.
And of course, many of the cultures that we see in my books, because my main protagonist is a person. And the dragon to whom he's connected, we mostly see them interacting with other societies where humans and dragons interact. And the general thrust, I think, of my books is that a society where humans and dragons cooperate as equals, strategically speaking, is more powerful than a society where either one or the other is either absent or not integrated. And that's driving a lot of the changes in the Napoleonic Wars in my books.
Donc il y a beaucoup de cultures différentes dans ce monde et dans l'univers, et parce que le protagoniste est un homme et le dragon avec lequel il a un lien particulier, et qu'ils vont, ils vont interagir avec beaucoup de sociétés différentes, et donc on va beaucoup parler de l'interaction entre les humains et les dragons. Je pense que un des points fondamentaux des livres, c'est que une société où l'homme et le dragon coopèrent en tant qu'égaux est en généralement stratégiquement plus puissante qu'une société où l'un ou l'autre est absent, où leur relation n'est pas symétrique et n'est pas égale. Et cette idée va orienter et diriger beaucoup de changements dans les guerres napoléoniennes dépeintes dans les livres.
And to sort of come back to the question that the dragons in my books, I think, do value society, do value civilization many times. The ones that are found living wild, the ones that are feral, are those that haven't sort of naturally been integrated. But at the same time, the dragons alone don't necessarily make societies of their own. But in some cases they do, but I... Also, similarly, in my world, I would say a society without dragons, a human society, might organize itself, but then still be very vulnerable to being destroyed by other societies. So that it's very much a series. It's very much about a world where humans and dragons are almost forced to interact.
Pour revenir à la question, les dragons accordent de la valeur à l'idée de société, à l'idée de civilisation. Et quand ils retournent à l'état sauvage, donc ils deviennent féroux, ils peuvent être, ces civilisations, cette société peut intégrer de façon relativement naturelle ces dragons. Mais laissés à eux-mêmes, seuls, ils n'ont pas vraiment tendance à construire de société par eux-mêmes. Parfois ça arrive, mais c'est quand même assez rare. De la même façon qu'une société humaine qui n'a pas de dragon va se révéler extrêmement vulnérable et court grandement le risque d'être détruite. Donc finalement, c'est un monde où l'homme et le dragon sont quand même grandement forcés d'interagir.
Pierre, dans les différentes séries de romans qui contiennent des dragons, quelle est l'interaction entre les humains et les dragons?
est variable selon que le dragon représente une menace immédiate ou clairement exprimée ou pas. Je pense que le... On parlait de différentes incarnations du dragon et de, qui pouvait être une créature bonne, mauvaise, dans l'absolu, ou voire même dans un certain... Si on imagine que le dragon est... Il y a une race draconique qui pourrait être, avoir des milliers d'individus différents qui ont chacun leur personnalité avec des bons, des mauvais, des généreux, etc. Oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dont on ne peut pas, qu'on peut pas enlever au dragon. On peut en faire à peu près tout ce qu'on veut, sauf lui enlever le pouvoir. Je trouve que le dragon doit être une créature puissante. Là, je réfléchis, je me demande, à part peut-être chez Terry Pratchett, où le dragon peut être plus ou moins inoffensif, voire même comique, en lui enlevant son pouvoir, mais là on est quand même dans un univers assez particulier, le dragon est toujours, doit toujours être puissant. En tout cas, celui qui me plaît. Je ne me vois pas imaginer un dragon comme un brave pépère qui se nourrit de betteraves, qui l'aurait cultivé lui-même dans son champ, ça va pas. Le dragon, il peut être gentil. Il peut être bon, il peut être généreux, il peut même être un protecteur vis-à-vis des êtres humains, mais j'ai l'impression qu'il a toujours besoin d'avoir en lui une puissance. Quoi. Le dragon, il incarne une force, et j'ai l'impression qu'on ne peut pas lui enlever. Alors, sachant cela, à l'évidence, les humains, par rapport à lui, dans un rapport de confiance absolue, peuvent se sentir à ses égaux, mais sinon... C'est peut-être un peu comparable aux vampires, quoi. Quand on sait qu'on est face à quelqu'un qui peut vous saisir d'une main ou d'un croc ou d'une serre pour vous tuer sur place, qui connaît des secrets que vous ignorez même, ça force le respect. Forcément, je pense qu'il y a un rapport de subordination qui est inévitable.
Naomi voulait juste dire que Téméraire aurait parfaitement pu manger des asperges.
Est aussi une vache entière.
Il y avait des dinosaures. Ouais,
absolument. Oui, du coup, ça y est, j'avais d'autres questions en tête. Oui, voilà, la puissance. Naomi, est-ce que vous êtes d'accord avec... Naomi, est-ce que vous êtes... C'est la fatigue, hein, au bout de 4, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Pierre, justement, en matière de puissance? Est-ce que la puissance est forcément liée au dragon?
Inévitablement liée à l'idée du dragon.
I think so. I do agree, definitely. Within my books, one of the things that I do enjoy is playing a little bit with the dragon's personalities to make them still be able to have human, sort of the amusing aspects. I don't want them to be... I like having a theme of humor in the books. And one of the things that allows me to do that is the relative sizes, you know, of the dragons and the... I have a little dragon who's not very smart, who's always very excited about eating cows. He's one of my favorites. But also that sometimes there's an entertaining contrast between the massive power of this dragon and how they can sort of, you know, they have little squabbles amongst each other. So you have the giant fire-breathing dragon and the giant, and Temeraire and they're both very powerful, so their interactions can still be humorous. But they do, there is always with people, that is always the interaction underneath, that they do have this immense power, that they remain a danger, but so are guns. You know, so is a gun, so is a cannon in this period in time, so is a giant warship, a 100-gun ship. They could break enormous destruction. They did destroy civilizations, just as dragons did. So, and that's one reason why this period, for me, at least, works. For dragons. Sorry, I was told.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que Pierre vient de dire. Ce qui m'amuse d'avoir dans le livre, en fait, c'est de jouer un petit peu avec la personnalité de ces différents dragons. Et ça me permet, par exemple, de leur conférer quelques petits aspects amusants. J'aime bien avoir un thème un peu humoristique dans les livres. Et un des choses qui me permet d'avoir ça, par exemple, c'est de jouer avec la taille relative des différents dragons. Par exemple, j'ai un petit dragon qui est pas très très futé et qui est toujours très très content d'aller manger des vaches. Et donc ça me permet aussi de parler un peu du contraste. Donc on a ces espèces d'immenses créatures extrêmement, extrêmement massives, extrêmement puissantes, et qui vont avoir peut-être parfois des petites querelles un peu entre elles. Par exemple, on a une querelle avec un immense dragon cracheur de feu et téméraire qui n'est pas petit non plus. Mais je pense qu'il y a toujours cette idée de puissance derrière, effectivement. C'est-à-dire que toutes deux sont des créatures extrêmement puissantes. Leur interaction me permet d'avoir un petit peu d'humour, mais derrière cette interaction, il y a toujours l'idée qu'ils manient cet immense pouvoir, et ça reste toujours en filigrane. Mais ils sont puissants de la même façon qu'un revolver, qu'un canon, qu'un navire de bataille équipé de 100 canons à bord, peut-être extrêmement destructeurs également, et qu'ils peuvent déchaîner une terrible destruction, détruire des civilisations de la même façon que les dragons l'ont fait. En tout cas, c'est la raison pour laquelle cette période fonctionne pour moi.
Marie-Charlotte, toi qui n'aimes pas les dragons.
J'ai dit que ça me fascinait.
Y a-t-il une créature mythique, par exemple, dans le légendaire qui te fascine?
Marie-Charlotte, merci.
Mais non, je vais te dire pourquoi, parce qu'en fait je ne m'en sers pas pour rêver. Ce sont des objets de travail, et c'est comme les superstitions, à force de travailler dessus, j'en ai plus, ou alors j'en ai des millions. Donc à force de décortiquer les choses et d'aller chercher l'histoire, ce qui est à la base du mythe, etc., ça détruit forcément l'aspect magique. Je comprends que ça désenchante. Je comprends que et d'ailleurs c'est bien, je veux dire, c'est des romanciers, des écrivains gardent et jouent avec, et j'aime bien les lire. Mais c'est vrai qu'a priori, ce qui m'intéresse à travers ça, ce ne sont pas les dragons, ce sont les hommes qui vont créer ces mythes-là. Et derrière toutes les créatures sur lesquelles je travaille, c'est l'histoire de l'homme qui m'intéresse, le pourquoi, le pourquoi de ces croyances populaires, le pourquoi de ces animaux mythiques, voilà, c'est vraiment ça l'objet de mon travail.
D'accord. On va venir aux questions. Alors, une dernière chose pour nos deux invités auteurs. Alors, je suppose que Pierre va me répondre non, mais à part le dragon, y a-t-il une autre créature mythique sur laquelle vous auriez envie de travailler? J'en étais sûre. Merci Pierre.
Voilà, et blanc.
I love working with all sorts of mythical creatures. In the Temeraire series, in the book that I set in Australia, I touched on the Bunyip legends, which are a mythical creature.
Bunyip.
Yes. It's an Australian mythical creature. And I've written some short stories. I've written a short story about a cranky unicorn. it's always fun.
Oui, j'aime beaucoup tout un éventail de créatures mythologiques dans la série Téméraire. D'ailleurs, j'en introduis un peu d'autres. Par exemple, il y a un volume qui se passe en Australie, et j'ai joué avec une créature du folklore là-bas qui s'appelle le Bunyip. Le Bunyip. Et j'ai également écrit une nouvelle sur une licorne qui est très très accro.
D'accord.
Il n'y en a pas tant que ça.
She says there's not that many mythical creatures.
Bien, mais je pense qu'on va peut-être laisser la place à quelques questions du public. J'ai vu quelqu'un qui avait une question à poser tout à l'heure. Le légendaire du dragon? Non, on n'a pas de micro. Donc la question était de savoir à quel type de public s'adresse le légendaire du dragon qui a été écrit par Marie-Charlotte.
Ah, c'est un livre tout public. Attendez, c'est un livre tout public, quand je dis tout public, je ne mets pas les enfants dedans, parce qu'il y a quand même pas mal de références. Il est lisible par tout public à partir de 14 ans, 15 ans. Après, je ne pense pas que la connaissance, dans quelque domaine que ce soit, ôte la magie.
I agree with that.
Naomi
est tout à fait d'accord.
Y a-t-il une autre question? Bon, j'ai tendance à penser qu'on a apparemment traité, on a fait le tour de la question. Et on espère en tout cas que cette table ronde vous a intéressé. Donc un grand merci à Naomi Novik et donc je vous invite à ruer sur sa série Téméraire. Marie-Charlotte, donc n'hésitez pas, ce légendaire des dragons est absolument très 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 intéressant, passionnant. Et bien évidemment, les ouvrages de Pierre sont aussi très très divertissants. Je pense que là vous avez un temps de dédicace à la bibliothèque.
Moi je reste là.
Ah oui, je reste là pour le tableau rond. Donc Naomi, je pense, est en dédicace à la Bulle du Livre et Marie-Charlotte probablement aussi. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Un grand merci à Lionel Davoust pour sa traduction, toujours de.
Et à sa bague dragon, vous avez vu.
Et à sa bague dragon. Merci à vous et à bientôt pour une autre table ronde.
Oh, la bague.